Je demanderai à Alessandro Martini de venir nous parler de l'antifascisme après le fascisme en Italie, le cas de Nuttorevelli et de son réseau.
Bonjour à tous. Eh bien, alors, en discutant avec Lucia en vue de cette journée, l'idée que nous avons partagée était de parler de l'engagement de Nutt dans les années de la fin de la résistance et de la transition vers l'immédiat après-guerre, en mettant un accent particulier sur son réseau politique et culturel qui se construit pendant les mois de la lutte clandestine et qui continue au-delà de ces mois. Je propose une réflexion en deux temps pour traiter ce sujet. D'abord, le premier temps sera consacré à un passage fondamental pour Nutt, celui de militaire pur à résistant politisé. Il s'agira d'un point très très bref, suite aussi à la belle intervention de Marc, qui a déjà dit beaucoup de choses, et il permettra de fixer quelques jalons qui permettront de jauger l'action politique et culturelle de Nutt dans l'immédiat après-guerre. Et à partir de là, dans un deuxième temps, je souhaiterais étudier la formation d'un réseau qui accompagnera Nutt dans ses premiers pas dans l'écriture, dans la publication de ses premières œuvres, et qui permettra de comprendre que dès ses débuts littéraires, donc dès 1946, et a fortiori dans les œuvres suivantes, Revelli propose des œuvres qui sont, à bien des égards, des actes politiques qui s'inscrivent dans le débat italien de l'époque et surtout au sein d'un réseau politique et culturel. Alors, dans le premier temps de la réflexion, je reviendrai très rapidement sur quelques points qui me semblent importants pour replacer le parcours de Nutt dans le contexte personnel, dans le contexte culturel qui est le sien. Alors, le point principal concerne la nature, alors je ne m'attarderai pas trop sur ça, concerne la nature toute militaire de l'engagement de Nutt en tant qu'officier de l'armée italienne. Et pourquoi cela? Parce que ça permet de souligner en creux l'absence d'un positionnement politique de Revelli à son entrée dans l'armée. Et j'ai dit cela parce que pour des jeunes comme Nutt, qui ont grandi sous le fascisme, qui ont adhéré à ses côtés sportifs du régime, puis militaires, il n'était pas évident de déchiffrer des événements à portée politique, y compris des événements qui dépassaient la dimension strictement personnelle. C'est le cas, Marco l'a dit, du 25 juillet ou du 8 septembre. J'ai moi aussi une toute petite citation tirée des deux guerres. Nutt dit « Le 8 septembre est une autre date difficile à comprendre. Les antifascistes l'attendaient, les antifascistes la prévoyaient. Moi, et comme moi tant d'autres, qui appartenait à un autre monde, je continuais de ne pas comprendre. » Il y a cet instinct sous l'incompréhension de ce qui se passe. Alors, dans ce marasme, motivé en partie pour Revelli par l'absence de toute forme de militantisme politique avant-guerre, Nutt donc s'accroche à ce qu'il peut, à son expérience militaire, à la doctrine du camp de bataille. Mais attention, il fait cela, il s'accroche au côté militaire, tout en rejetant à jamais, Marco l'a dit, l'institution qu'est l'armée italienne, coupable à ce moment-là, au même niveau que le régime, de la catastrophe de Russie et de la guerre nazi-fasciste. Alors, cet ancrage militaire, ou mieux, cet ancrage au passé militaire en Russie est visible dans les toutes premières phases de l'engagement de Nutt dans la résistance, notamment dans la dénomination de sa première bande clandestine. Avant de rejoindre Italia Libera, il forme avec deux camarades la prima compagnia rivendicazione caduti, qu'on traduirait première compagnie revendication des morts, des disparus. Alors, sans s'attarder sur la composition de cette bande, je me limite à signaler que pour cette bande formée par d'anciens militaires en rupture avec l'armée, les soldats morts en Russie, i caduti, sont les seuls repères qui puisse servir de fondement pour structurer la lutte armée qui se prépare. Mais il y a plus encore, cette bande n'est pas seulement dépourvue d'un positionnement politique, mais ses membres se méfient de tout engagement de nature politique, ils se méfient même des bandes qui sont nées, motivées par une posture politique, ou bien qui sont les émanations d'un mouvement antifasciste. Enfin, en tout cas, un mouvement politique, plutôt. Donc, en ces premiers mois de guerre clandestine, on est là en septembre 1943, le positionnement de Revelli est malaisé, puisque dans la même zone d'opération, prennent vie dès le 9 septembre, d'un côté des bandes politiques, Italia Libera, et d'un autre côté des bandes qui sont l'émanation de l'armée, de militaires purs, qui continuent à porter l'uniforme et qui se construisent donc dans la continuité de l'armée. Donc la position de Revelli est malaisée, mais il se veut équidistant. Son positionnement peut se résumer par une citation rapide. Nous ne voulons rien savoir des politiques, nous ne voulons rien savoir des militaires. Donc c'est un positionnement entre les deux. Mais il s'agit d'un positionnement donc difficile à tenir et qui ne dure qu'un temps, très bref, quelques mois, 4-5 mois. Le temps pour Nuto de se rapprocher de la bande GL de Dante Livio Bianco. Un rapprochement qui, alors, dans un premier temps, qui est teinté de beaucoup de méfiance des deux côtés. Nuto se méfiait des politiques, mais Dante Livio Bianco se méfiait des militaires. Et qui se fait, c'est un rapprochement qui se fait tout d'abord pour des raisons de pure stratégie militaire et d'efficacité de la lutte entre la plaine et la montagne. Alors, nous n'aurons pas le temps, là, aujourd'hui, d'esquisser l'un des rapports d'amitié profonde, de confiance sans borne, un des plus intenses au sein de formations clandestines. Et bien évidemment, s'il s'agit du rapport entre Nuto et Livio Bianco, on peut seulement dire que Livio Bianco est devenu pour Nuto un guide capable de le diriger très rapidement vers un engagement réfléchi, un engagement politique du coup, un engagement qui ne durera pas uniquement le temps de la guerre. Et en effet, au-delà du rôle joué par les faits d'armes pendant les 20 mois de lutte, l'encadrement de Revelli dans les bandes de Livio Bianco est le premier pas d'un engagement politique, d'un engagement civique, plus largement un engagement humain, qui motivera et qui soutiendra l'ensemble de la trajectoire intellectuelle de Nuto. Et en effet, c'est au travers de cette rencontre que se fait chez Revelli un passage majeur, celui d'une conception uniquement technique et militaire de la guerre à une perspective où la lutte armée n'est qu'un pas vers l'après, hein, vers un monde d'après, on va dire. Alors, je ne vais pas m'attarder après sur la trajectoire dans la résistance de Nuto, mais je tiens comme point d'arrivée de cette première partie de la réflexion un basculement vers un engagement politique qui se fait très rapidement dès l'entrée en clandestinité et qui ne sera régné, bien au contraire, dans les années suivantes. Donc on en arrive à la transition après le 25 avril et surtout donc à la place qui est celle de Revelli dans ce monde de l'après-25 avril. Alors Revelli s'est engagé dans une bande politique dont les cadres ont tous un passé de militantisme antifasciste avant la guerre, et même une profession, souvent intellectuelle, qui pouvait être réactivée au sortir de la guerre. Alors, pour Nuto, c'est un peu différent. Revelli n'a pas une profession intellectuelle pouvant être réactivée après la guerre, ni une profession tout court, d'ailleurs, ni même un passé de militant au sein d'une organisation antifasciste qui pourrait lui offrir des repères ou bien des perspectives au-delà, en dehors d'une situation de guerre. Et alors, à côté d'une recherche d'emploi qui s'avère plus difficile que prévu, Revelli entame aussi un parcours politique de militant du Partito d'Azione et s'engage dans l'après-guerre, dans la politique active. Au printemps 1946, on est dans le contexte de déconfiture liée à la chute du gouvernement Parri, qui arrive le 10 décembre 1945. Donc, je disais, au printemps 1946, c'était en Italie les premières élections. Lors du premier congrès régional du PDA, le 5 et 6 janvier 1946, Revelli est nommé candidat aux élections municipales de Cuneo, où il est élu conseiller le 3 mars de la même année. Le PIDA totalise 8% des voix dans la circonscription. Et des trois élus de Cugno, Ravelli est le seul sans un passé de militant antifasciste avant la guerre. Parallèlement aux élections municipales, se prépare le référendum institutionnel du 2 juin 1946 et le vote pour l'Assemblée constituante, avec un résultat décevant pour le PIDA dans la circonscription de Cugno-Alessandria, un échec cuisant même. Pour Cugno, qui a eu lieu de l'engagement JL, le parti ne dépassera pas que 12 000 voix. Il totalisera 12 000 voix, qui est très peu en deçà du quorum demandé pour élire un membre à l'Assemblée. Mais donc, c'est lors de cette expérience dans la politique active que c'est dans le passage de la lutte armée au combat politique que se dessine et se forme l'engagement de Revelli dans l'après-guerre. C'est là aussi que se détermine son futur d'écrivain. En effet, la publication en 1946 de Mai Tardi, premier ouvrage autobiographique sur la retraite, cet ouvrage devient le point de départ pour la formation d'un réseau politico-intellectuel qui accompagnera Revelli tout au long de son parcours. Alors, Dante Livio Bianco est bien entendu la pierre angulaire de ce réseau, mais d'autres personnes vont l'enrichir au fil des mois qui suivent la fin du conflit. Alors, le point intéressant de ce processus de formation d'un réseau qui se crée assez rapidement, c'est que nombre des cadres JL qui y participent ont su apercevoir dès le lendemain de la guerre, l'importance d'une action qui passe du plan militaire au plan culturel, au sens large, au plan éditorial, dans le cas de Revelli. Il s'agit d'une stratégie lungimirante, on dirait, qui anticipe de plusieurs années des positions qui seront théorisées bien des années plus tard. Je fais juste un exemple. Dans une lettre de 1962, donc une quinzaine d'années plus tard, Giorgio Agosti écrit que Giorgio Agosti, dans une lettre, il insiste sur l'importance de recueillir, on est en 62, de recueillir les documents, les témoignages, les mémoires de la résistance dans le but de créer son mythe, le mythe de la résistance. En 62, il écrit ça, Giorgio Agosti, pour opposer un discours à la vulgata fasciste qui prenait de plus en plus de place dans ces années-là. Donc, considéré de ce point de vue, le réseau de Revelli, le réseau de Bianco, et ce qui en découle, Mai Tardi, ou l'œuvre de Bianco, 20 mesi di guerra partigiana e cunese, publié entre 1945 et 1946. Donc, de ce point de vue, ce réseau est le premier élément dans l'élaboration de la mémoire qu'Agosti théorise bien des années plus tard. Alors, où est-ce qu'il naît ce réseau? Où est-ce qu'il naît le réseau de Revelli? Alors, probablement, lors d'une visite à Cugno de Ferruccio Parri, qui a dû avoir lieu entre le mois de mai et le mois de juin 1945, Revelli rencontre Emilio Castellani, Mino Castellani, diplômé en droit, militant antifasciste milanais, lui aussi officier de l'armée, lui aussi rescapé de Russie, il n'était pas sur le front à la différence de nous, résistant en Piémont, Valle Pellice, on en parlait tout à l'heure, et responsable de la presse clandestine pour les JL piémontaises. Alors, de par son parcours familial, Castellani a des entrées dans le monde éditorial milanais et turinois, ce sont les deux centres éditoriaux italiens au sortir de la guerre. Florence est désormais en perte de vitesse. Il est traducteur de renom, pas de profession, mais traducteur de renom de l'allemand. Et Castellani donc entame, au sortir de la guerre, une œuvre capitale dans la transmission de la mémoire politique des bandes résistantes, notamment avec Nuto. Son intuition devrait, sur le terrain éditorial, dès le lendemain de la guerre, répond à un dessin politique dont les modalités et la méthodologie seront donc embrassées de manière systématique une dizaine d'années plus tard par les maisons d'édition et les grandes maisons d'édition. Donc Castellani Et la personne à qui l'on doit le début éditorial de Revelli, bon, évidemment, Nuto a écrit le livre, mais, accompagné par Castellani dans sa diffusion, dans son placement. Mais au-delà de l'apport capital de Castellani lors de la préparation du livre, ce qui intéresse, ce sont les visées politiques de son action. Et celles-ci sont particulièrement visibles dans ce que l'on pourrait appeler l'expertise éditoriale qu'il apporte à Nuto. Alors que Revelli ne songeait même pas à une publication pour son livre, tiré d'un calepin rempli lors de la retraite de Russie, Castellani propose à Revelli des projets éditoriaux d'envergure qui paraissent à première vue presque démesurés. Prenons par exemple le choix du lieu d'édition. Pour Castellani, il faut que le livre soit proposé à une maison d'édition nationale, généraliste, donc non étiquetée par une appartenance politique, en mesure de diffuser largement le livre dans toutes les couches de la population, et donc non pas chez une petite maison d'édition, parmi les milliers de maisons d'édition qui sont nées, qui ont vu le jour dans l'immédiat après-guerre, ni dans les cercles d'anciens combattants que Revelli visait au début lorsqu'il songeait à écrire son livre. Castellani donc évoque immédiatement l'horizon de l'édition nationale généraliste, pas n'importe laquelle, Einaudi à Turin. Et puis, si un refus devait se concrétiser, Bompiani à Milan, car il y avait ses entrées. Alors, dans la direction d'Einaudi, cela est évident. Dans les cadres, il y avait beaucoup de sympathisants GL. Chez Franco Venturi, par exemple. Bompiani, parce que Castellani connaissait Vittorini, qui à l'époque était consultant de Bompiani. Alors, cet écart de vision entre Nuto et Mino Castellani est certes lié en partie au milieu dont sont issues les deux personnes, mais surtout il en dit long sur les visées politiques qui sont celles de Castellani et sur la vision qui est la sienne de l'édition de l'après-guerre. Castellani, en effet, il souhaiterait que le livre soit prêt, soit publié en vue justement des échéances électorales de 1945-1946. Mais les idées de Castellani se heurtent avec l'agenda des maisons d'édition italiennes au sortir de la guerre. D'une part, ces maisons devaient absorber le retard accumulé pendant la guerre. Elles devaient honorer les contrats signés juste avant la guerre, notamment en littérature. Il y avait, pour Einaudi, il y avait l'édition de Proust qui était un jeu, qui avait été commencé, qui n'était toujours pas terminé. Et dans un contexte technique de pénurie de papier. Et ça, alors on parlait du coût de papier tout à l'heure à la pause. La pénurie de papier pour l'édition italienne est un point est véritablement important. Et donc, dans ce contexte, la place pour les œuvres, disons, politiques est réduite et les mémoires ne faisaient pas partie des priorités, les documents, les témoignages ne faisaient pas partie des priorités de ces grandes maisons d'édition. Alors, le discours sur la place des documents chez Einaudi nous amènerait trop loin. Castellani y croit, mais il essuie deux refus, le refus à la fois d'Einaudi et une semaine après de Bompiani, qui refuse donc le manuscrit. La réponse d'Einaudi a été il n'entre pas, ce type de document n'entre pas dans nos collections, dans les collections d'Einaudi à l'époque. Et Bompiani dit à peu près la même chose. Donc, que fait Castellani une fois essuyé ce refus? Il se tourne, donc deuxième échelon, vers des éditeurs politiques. Politiques, c'est-à-dire des maisons d'édition qui sont l'émanation d'un parti, en l'occurrence du PDA, du Partito d'Azione. Alors, pourquoi il s'agit d'un repli? C'est assez évident. La sortie chez une maison d'édition de parti étiquette fatalement le livre qui sort, et surtout, c'est le point que Castellani ne cesse de souligner, surtout la diffusion du livre n'est pas assurée au même niveau qu'une grande maison d'édition pourrait assurer au niveau national. Et c'est la crainte principale de Castellani. Alors, mais au-delà de ces considérations idéologiques et pratiques, le passage chez ces deux maisons d'édition, alors, il y a deux maisons d'édition que Castellani vise, la Fiaccola, alors, le nom est assez parlant, le symbole GL, et l'Edizioni U, pour Edizioni Uomo. Le passage chez ces deux maisons permet à Revelli d'étoffer encore son réseau. Parce que dans le processus d'étude de son manuscrit, le manuscrit, donc élu et approuvé sans réserve par, d'une part, Giorgio Agosti et Franco Venturi, qui le passe ensuite pour expertise au responsable des collections historiques chez la FIAC, chez l'Edizione New, Carlo Dionisotti, Aldo Garoschi et Massimo Mila. Donc là, cinq lecteurs qu'on retrouvera lors de l'arrivée de Revelli chez Einaudi, notamment Mila, Agosti et Venturi, Garoschi un peu plus tard. Alors, l'accord commercial n'est pas trouvé avec ni la Fiaccola ni avec l'Edizione U. Hein, ça, c'est trop long à développer là, mais bon, il y a des questions donc de diffusion, de prix, etc. Et donc, l'aboutissement de ce processus éditorial est, si l'on adopte le point de vue de Castellani, le moins souhaitable qu'il soit, puisque c'est un éditeur local de Cuneo, Panfilo, à savoir la typographie éditoriale de Arturo Felici, ancien résistant GL, imprimeur de la presse clandestine de Cuneo. Donc, c'est donc Panfilo qui publiera le livre de Revelli, tout comme il avait publié celui de Dante Livio Bianco l'année précédente. Alors, le catalogue de Panfilo est excellent. C'est un très bon catalogue en 45-46. Dante Livio Bianco, il compte aussi un volume de... alors, celui de Bianco, il sort avec une préface de Giorgio Agosti, un volume de Carlo Galante Garrone, et les couvertures proposées par Panfilo proposent des œuvres originales de Lalla Romano, qui ne sont pas signées, mais donc les dessins, c'est Lalla Romano qui les a fait. Mais donc, au-delà de ce catalogue exceptionnel, un très bon catalogue, le problème, c'est la diffusion, évidemment, la diffusion du livre. Mai Tardi sortira en juillet 1946, et il sera rapidement, très rapidement épuisé, et la diffusion devra se faire par le réseau d'anciens combattants de Nuoto, qui, dans leur village, dans la plaine, dans la montagne, dans la colline, achètent deux copies par là, cette copie par-ci, cette copie par là, deux copies par-ci, à tel point que quelques mois seulement après, six mois après, une commande de 40 exemplaires ne pourra être honorée, puisque les stocks sont quasiment épuisés, six mois après l'impression. Alors, juste une anecdote, Giulio Einaudi, une dizaine d'années après, un peu, oui, 7-8 ans après, voudrait le lire, puisque c'est Calvino qui lui en parle lors d'une soirée. Et donc, c'est Giorgio Agosti qui lui donne son exemplaire personnel et qu'il en reste dépourvu. Et donc, il écrit à Nuoto en disant, voilà, je n'ai plus, on ne le trouve plus, Nuoto doit lui envoyer un deuxième exemplaire, puisque le sien a été donné à Giulio Einaudi. Mais l'héritage laissé par le travail autour de Mai Tardi, ses péripéties éditoriales, donc cet héritage, c'est le réseau dont on vient de parler, et peut-être l'aspect le plus précieux, finalement, des deux années qu'a duré la préparation du livre. Et ce réseau sera activé quelques années plus tard et amènera Revelli chez Einaudi. Tout ça pour dire que l'arrivée chez l'éditeur turinois n'était pas acquise. Il serait erroné de considérer l'arrivée de Nuoto chez Einaudi comme quelque chose d'acquis, quelque chose de naturel, tout comme il est erroné de considérer son arrivée chez Panfilo comme quelque chose de naturel. C'est-à-dire, voilà, le premier livre inconnu, il est publié à Cuneo, et puis chez Einaudi. En fait, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Donc, il y a la valeur littéraire de l'œuvre, bien évidemment. Et dans le cas de Revelli, celle-ci est accompagnée par un réseau solide qui s'est forgé d'abord pendant la guerre clandestine, ensuite autour de l'édition de son premier ouvrage. Et puis, il y a aussi d'autres éléments, il y a aussi les hasards de l'existence, les drames en l'espèce. En juillet 1953, Dante Livio Bianco décède lors d'une course d'alpinisme, la Cima Saint-Robert, à côté de Cuneo. Dès le lendemain, Agosti et Venturi réactivent le réseau éditorial littéraire autour d'un hommage à Bianco prévu cette fois chez Einaudi. Et Revelli en fait tout naturellement partie. Agosti lui demande une relation sur les faits militaires de Turini et puis de nombreuses informations pratiques sur des détails, des actions militaires auxquelles ont participé Bianco et Revelli ensemble. Et c'est comme cela que Revelli s'approche encore davantage d'Einaudi. Et à vrai dire, il y a plusieurs phénomènes qui se télescopent en ces débuts des années 50, même si on serait bien peiné d'établir une quelconque relation de cause à effet. En ces débuts des années 50, en Italie, d'autres facteurs semblent favorables à un intérêt renouvelé pour les œuvres de mémoire et pour les études portant sur la résistance. Chez Einaudi, ce renouveau est porté par Calvino, avec Roberto Battaglia, qui publie donc en 50 son histoire de la résistance, mais aussi par Malvezzi et Pirelli autour des lettres de condamnés à mort de la résistance italienne, qui sortent pareil au début des années 50. Et plus globalement, la décennie des années 50 est inaugurée à Venise par un très grand colloque organisé par Leonida Repaci sur la culture et la résistance. Et ce serait dans ce colloque que l'idée de l'histoire de la résistance de Battaglia aurait germé. Calvino lui a demandé de l'écrire, donc il sortira deux années plus tard. À la même période, d'autres maisons d'édition proposent des collections consacrées aux documents de la résistance. Et l'idée chez Einaudi serait de constituer un corpus écrit par les dirigeants de la résistance, un corpus qui serait inauguré donc par Dante Livio Bianco, qui venait de décéder, donc, et pour lequel Einaudi contacte également Parri, contacte Secchia, Pietro Secchia et Roberto Cessi, pour que chacun écrive un chapitre consacré à une histoire locale de la résistance. Donc, suite à un travail d'arrache-pied au service de Venturi et Agosti pour l'hommage à Bianco chez Einaudi, cet hommage, c'est la réédition du premier livre de Bianco de 45, enrichi d'autres documents, lettres, etc., Revelli, donc, par ce travail, se fait remarquer par Calvino, on le disait, qui en parle en de termes élogieux, qui parle en de termes élogieux de Maitardi lors d'une soirée chez Giulio Einaudi, et commence à ce moment-là une deuxième aventure, un deuxième parcours, qui est celle du travail pour La guerra dei poveri, deuxième ouvrage de Revelli, premier pour Einaudi, qui sera publié bien des années plus tard, en 62, donc une très longue gestation. Et je m'arrête là, avant d'ouvrir le chapitre La guerra dei poveri, qui nous amènerait trop loin. Merci beaucoup.
Mon intervention va de toute façon être très rapide parce que nous voulions placer dans cette séance une intervention d'un historien français de la résistance plus institutionnelle. Et pour que le parallèle soit établi, mais nous aurons ensuite l'intervention d'Éric Vial et l'intervention d'Antonio Michelloni. Je voulais seulement rappeler un certain nombre d'éléments importants de l'après-guerre que l'intervention d'Alessandro Martini vient déjà d'introduire, c'est-à-dire comment passe-t-on de la résistance à une présence de la résistance et son souvenir, etc., etc., dans la vie intellectuelle et culturelle d'un côté, dans la vie politique de l'autre, et quelles sont les oppositions qui me paraissent essentielles pour moi, mais je peux me tromper, je ne suis pas un historien de cette période-là, entre l'Italie et la France. On est tout de même en face, on parle de deux résistances, mais on est tout de même en face de deux résistances radicalement différentes, dans leur durée d'abord, dans leur structuration et dans les épisodes qu'elles ont traversés. Puisque d'un côté, nous avons du côté italien, et la vie même de Nuto Revelli venait nous le rappeler, un ventennio fasciste suivi d'une chute du régime et d'un changement de bord de l'Italie, dans une situation où, quoi qu'il fasse, l'Italie se retrouve du côté des vaincus, dans un premier temps. Je rappelle la phrase de Crochet disant: cette guerre est terminée, nous l'avons perdue, nous l'avons tous perdue, y compris ceux qui s'y étaient opposés. Je résume un peu la phrase de Crochet, mais elle dit exactement ce qu'elle veut dire. Tandis qu'on pourrait dire que du côté français, cette guerre, nous l'avions perdue déjà, mais nous nous sommes retrouvés à l'arrivée dans une situation où on pouvait dire, croire ou faire semblant de croire que nous l'avions gagné, parce que la France se retrouvait du côté des vainqueurs, sur un siège inférieur, mais tout de même du bon côté, après avoir abandonné le combat en juin 40, dans les conditions que tout le monde connaît. C'est assez important, parce qu'on se retrouve en Italie avec une grande importance intellectuelle, et puis par l'âge aussi de l'émigration antifasciste qui va commencer à rentrer en Italie en 42, et qui va fournir tout de même un certain nombre de leaders importants, tandis qu'on va se retrouver avec une longue guerre de résistance en Italie du Nord, qui va durer plus d'un an et demi, et couvrir une étendue plutôt montagneuse que dans la plaine, une étendue de territoire beaucoup plus grande, avec en face, d'un côté, une armée allemande, mais aussi le gouvernement de la République de Salo qui participe activement à la guerre. Tandis que la résistance française a une histoire tout de même plus compactée dans le temps, puisqu'on a une séquence d'événements finalement très rapide, avec d'un côté la défaite de juin 40, l'armistice, le refus de De Gaulle, donc un premier ralliement de gens qui refusent l'armistice et qui rejoignent Londres ou directement, immédiatement, ou par des voies détournées. On a ensuite très tôt le débarquement américain et anglais en Afrique du Nord au début de novembre, 1942. Tout ça, ça fait tout de même quelque chose de très rapide et qui va tout de même aussi permettre la participation de troupes françaises aux différentes étapes de la guerre ultérieure. Il y avait eu quelques interventions, notamment déjà indépendamment en Libye, enfin dans le Fezzan, il y avait eu les opérations en Syrie en 41, et puis il va y avoir surtout le ralliement de l'armée française qui se trouvait en Afrique au gouvernement provisoire qui est en train de mettre sur pied De Gaulle. Donc on a une suite d'événements extrêmement rapide, avec l'obligation pour les différents acteurs, et pas seulement des résistants, de faire leur choix. Il est sûr que, d'une certaine façon, le ralliement du général Juin au pouvoir politique de De Gaulle, alors que ce sont deux militaires de la même promotion, de Saint-Cyr, ils se connaissent depuis toujours. C'est tout de même un climat différent. Et comme il nous a été rappelé ce matin, la résistance française se met en place tout de même plus tard, j'allais dire tardivement, dans d'autres conditions, avec essentiellement à partir d'un côté de 42, d'un côté le gouvernement Laval, je souhaite la victoire de l'Allemagne, bon, déclaration officielle, parce que c'est le seul rempart contre le communisme, c'est la rafle des juifs du Veldiv, et c'est donc ce deuxième épisode. Et puis c'est après le débarquement allié en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc, c'est bien entendu l'occupation de cette dernière fiction qui était la zone dite libre et qui ne l'était que moins en moins. Donc tous les événements se sont télescopés. Alors il y a beaucoup de gens qui ont fait le choix à court terme très raisonnable, ils ont compris la situation. Il y en a d'autres qui ont compris avec un peu de retard. Mais la résistance va se trouver ravitaillée, nourrie de l'arrivée de combattants, ou en tout cas de membres, avec l'obligation du service du travail obligatoire en Allemagne, qui va, un peu dans toute la France, entraîner justement un certain nombre de jeunes surtout a refusé de partir et a entré dans une résidence, dans une résistance de fait, ou du moins être proche du maquis, mais souvent, je peux m'en témoigner pour la province que j'ai le mieux connue, qui était le Limousin, vivait normalement dans leur village à la maison et que personne n'allait chercher pour leur imposer de partir. Donc on se trouve tout de même dans deux situations différentes sous le même nom et qui vont se trouver confirmées par les conditions du changement politique, c'est-à-dire une libération du territoire italien en deux temps, avec le long arrêt sur la frontière du nord des Apennins, tout ce qui va laisser toute la plaine du Pô et l'Émilie-Romagne, tout ça en dehors, tandis que finalement les opérations militaires sur le territoire français, proprement français, je laisse la Corse, vont se jouer de manière très rapide entre le 6 juin 40 et 44 et décembre 44. On a donc deux contextes différents. Et pourtant, c'est intéressant, c'est de considérer les deux libérations. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit, justement, le passage par le Parti d'Action pour arriver dans des partis plus forts et disposer d'autres soutiens. On va se retrouver tout de même apparemment dans des situations politiques voisines, à une exception près, si on prend les résultats des élections aux assemblées qui vont se trouver constituantes, on va se trouver en Italie, en France, avec finalement des pourcentages de vote à peu près identiques, enfin pas exactement, mais où les partis se réclamant dans la résistance occupent 90 ou 95% des sièges. La différence se trouvant juste en avant, le même jour, c'est le vote pour ou contre la monarchie. On n'a pas eu besoin de vote pour se débarrasser de Pétain et de Vichy. Et ce vote pour l'abolition de la monarchie va tout de même faire apparaître une carte du territoire. Hein, assez extraordinaire, le vote n'étant acquis de très peu de choses et même discuter un peu emporté à l'arraché, tandis que sur le fond finalement en France à ce moment-là les choses se jouent plus facilement, avec tout de même une grosse différence. Et avec une grosse différence, c'est le fait que dès le mois de janvier 1946, celui qui apparaît tout de même l'incarnation de la résistance tous azimuts, c'est-à-dire de Gaulle, donne sa démission et par refus justement de l'orientation majoritaire de ses partis se réclamant de la résistance elle-même au plan politique, donne la démission et on va entamer très rapidement un parcours qui entre l'été 46 et avril 47 vont déboucher sur une rupture politique de l'héritage de la résistance avec la constitution d'un parti du rassemblement du peuple français qui se présente justement, qui vient contester les décisions prises par les partis, ensemble le Parti communiste, les socialistes et le mouvement de le MRP, parti plutôt comparable par certains aspects à la démocratie chrétienne, mais qui ne va jamais prendre l'ampleur de la démocratie chrétienne italienne dans l'échiquier politique et qui va suivre effectivement un chemin totalement inverse. Donc, à partir d'une situation au départ finalement apparemment plus favorable pour l'Italie, une espèce d'éclatement de cette majorité politique issue de la résistance, avec une constitution par le mouvement gaulliste de la constitution elle-même. Alors que jusqu'aux années 80, les partis se réclamant de la constitution ont toujours eu des majorités en Italie de 80, 85 ou 90% et ont représenté l'essentiel de l'électorat. Et du point de vue, on a finalement, de ce point de vue, deux situations différentes à partir de points de départ qui auraient pu se ressembler. Ensuite, certains épisodes, évidemment, se ressemblent. C'est d'un côté la guerre froide et l'élimination des communistes du Parti communiste d'une façon ou d'une autre du gouvernement. Hein ? Donc, qui ont fait une force d'opposition. Et puis, du côté français, ce sont les guerres coloniales. L'Indochine d'un côté et la guerre d'Algérie ensuite vont peser très fortement sur la vie politique, avec comme résultat le MRP perd progressivement son électorat en très large partie au profit du mouvement gaulliste, et puis surtout se reconstitue très rapidement un parti de centre droit où se retrouvent beaucoup de personnes qui avaient approuvé, des fois participé au gouvernement de Vichy. Et la rentrée de la droite dans cette droite va se jouer en deux temps autour d'un président du Conseil, Laniel. On est allé chercher quelqu'un pour les mouvements dits indépendants et paysans. On est allé chercher Laniel, qui était une figure de la droite ayant eu un rôle actif dans la résistance en Normandie, à Antoine Pinet, qui avait, lui, voté les pleins pouvoirs et accepté le régime de Vichy pendant longtemps. Donc, assez paradoxalement, cette majorité en faveur des institutions nouvelles va éclater sous la forme précisément de la division des partis sortis de la résistance, mais aussi d'une circonstance extérieure, essentiellement la guerre d'Algérie, qui va finir par le retour de De Gaulle au pouvoir, par permettre au général de Gaulle de faire approuver une constitution qui reprend très exactement les éléments essentiels de ces propositions de 46-47, lorsqu'il est rentré dans l'opposition. Donc ça fait finalement, c'est un des éléments de la comparaison important. Un autre élément important serait la proximité, le rapport des intellectuels avec le Parti communiste français. Pour moi, François Furet l'avait rappelé très bien, lui-même, qui avait présidé l'association d'étudiants communistes de la Sorbonne. Il disait, nous sommes tous passés par le Parti communiste, nous nous distinguons seulement par la date à laquelle nous l'avons quitté. C'est-à-dire en 1953 pour les premiers, Berlin-Est, en 1956 pour les seconds, et puis en 1968 seulement à propos de la Tchécoslovaquie. Et ce qui compte, qui est très, très important, que finalement les deux partis communistes ont tout de même un profil intellectuel très différent, et l'accent étant mis sur une dimension proprement ouvrière et prolétaire par le Parti communiste français, à la différence du parti italien. Alors ça, c'est intéressant, moi, comme j'ai vécu une partie de cette période ensuite à cheval sur les deux pays, de voir j'ai dû comparer effectivement les deux situations, et j'y suis assez sensible. Alors le dernier élément qui paraît aussi important, c'était la comparaison des l'Institut italien d'histoire de la résistance, et au contraire de ce comité pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui va se trouver créé en 51 par un premier ministre, un président du Conseil qui venait de l'ère de l'ère gaulliste de Londres, René Pleven, un comité rattaché à la présidence du Conseil et qui va fonctionner, va constituer une association. Hein. C'est pas l'histoire de la résistance, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme si la résistance n'était qu'un épisode de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas le cas en France, et qui est une chose qui a été, qui a duré jusqu'à la création de l'Institut d'histoire du temps présent, qui a récupéré, assisté à la création, donc c'était le capital qu'apportait véritablement le comité qu'on était en train de dissoudre, c'était ces réseaux de correspondants locaux.
Et qui organisaient les chaînes départementales.
Des départements, et alors qui vous donne.
L'unité d'histoire
à
l'échelon de chaque département,
et qui publie les volumes sur chaque département, voilà, avec les personnes arrêtées, déportées, fusillées.
Les biographies de résistants. C'est un gros travail de terrain qui a joué un rôle très important aussi dans la connaissance.
Qui a mobilisé tout un ensemble d'informations, mais qui n'a pas poussé la recherche historique dans le sens où l'on développait beaucoup d'instituts d'histoire de la résistance en Italie même. Dernier élément tout de même qu'il faut rappeler, parce qu'on pas très bien quel est l'équivalent, il n'y a pas l'équivalent italien strict, mais pour voir s'il a existé, c'est tout de même la libération et la mise en route de la 4e République a été en France l'occasion d'un grand mouvement de réforme sociale, hein, très importante, le vote des femmes, la sécurité sociale. Ensuite, tout ce programme volontariste de modernisation qui aurait réussi s'il n'y avait pas eu les guerres, sans doute qu'il y avait eu les guerres coloniales, c'était un grand mouvement, mais c'était un accord qui datait de mars 1944 entre tous les mouvements de résistance. Et il a été, finalement, ça a été essentiellement l'œuvre de la 4e République, que sur un certain nombre de points, la 5e a poursuivi. Mais je citerai tout de même que au cours des 20 dernières années, s'est imposée dans la politique française l'idée exprimée ouvertement par certains intellectuels de droite, ce qu'il faut en priorité, c'est détricoter complètement le programme du Conseil national de la résistance. Le programme du Conseil est jusqu'au bout en laissant absolument rien. Mais on peut dire qu'entre 1944 et 2000, cela a été certainement l'héritage politique le plus important. C'était devenu quelque chose à laquelle on ne devait pas toucher. Pardonnez-moi d'avoir été très rapide, mais c'était un... Vu mon âge, c'était un arrière-fond d'histoire que j'avais besoin de rappeler. Parce que maintenant...